L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Le rendez-vous des amateurs de sport. Sur les ondes du 92.5, partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
Bon début de week-end, mesdames, messieurs. Une fin de semaine qui s'annonce pluvieuse. Je parlais ce matin avec quelqu'un de Montréal, puis il me disait, c'est le déluge. Ce matin à Montréal, il pleuvait beaucoup. Aujourd'hui, on s'en est tiré à Saguenay. Ce soir, on prévoit entre 20 et 30 millilitres de pluie. Demain et dimanche, des possibilités d'averse à 60 %. Les Jeux olympiques de Paris, ça achève. Prochain rendez-vous dans 4 ans. En Californie, à Los Angeles. Mais là, aujourd'hui, médaille d'or pour le Canada et ça a été spectaculaire. J'ai regardé la course du 4 x 100 mètres. Et pour la première fois, depuis les Jeux d'Atlanta 1996, on touche l'or. Je vous raconte un peu comment ça s'est passé. Le troisième à s'élancer, Brendan Rooney, a connu un sprint incroyable pour permettre au Canada de prendre les devants et remonter en tête. Et c'est André de Grasse qui a fini l'épreuve avec une poussée aussi puissante. Et on a terminé la distance en 37 secondes, 50 centièmes. Aaron Brown et Jerome Blake complètent le quatuor. Alors, médaille d'or pour le Canada aux 4 fois 100 mètres. L'argent va à l'Afrique du Sud et le bronze la Grande-Bretagne. Les filles, toujours aux 4 fois 100 mètres, se sont classées 6e. Médaille de bronze également en boxe pour le Canadien White Sanford, qui avait atteint les demi-finales. Médaille de bronze également, on en a parlé ce matin dans l'émission, médaille de bronze en canoë pour le duo de Cathy Vincent et de Sloane McKenzie. Maintenant au soccer, le CF de Montréal a trouvé un terrain d'entente avec le Toronto FC pour faire l'acquisition du jeune Canadien Jackalee Marshall-Routy pour un montant de 850 000. Mais ce que j'ai appris après-midi, c'est que la transaction pourrait s'élever à 1 300 000. Et puisqu'on est dans le soccer, le CF va jouer demain en 16e de finale dans la Ligue COPS contre l'Union de Philadelphie. On va surveiller également les Alouettes demain. Les Alouettes qui ont tout qu'un début de saison, 7 victoires, 1 défaite. Ils vont jouer à nouveau contre les Tiger Cats de Hamilton demain à 19h. Au baseball, les Jays commencent une nouvelle série ce soir contre les Aces d'Oakland. On surveille évidemment Guerrero qui est le joueur de l'heure. Guerrero, hier, un circuit, un double et un trip. Il est 20 matchs de suite avec au moins un coup sûr, Guerrero. On surveille également ce soir, à 21h30, la Coupe Linka-Gretzky, le Canada, qui va affronter les États-Unis. Il y a des matchs en concours dans la NFL. Il y en a 3 aujourd'hui, 9 matchs en concours demain. Il y a un championnat canadien d'athlétisme à Calgary en fin de semaine avec 3 athlètes de la région. Les voyageurs vont commencer leur série à Charlebourg la semaine prochaine. On surveille également, toujours au baseball, les pionniers de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui disputent 4 matchs en 2 jours. Puisqu'on est dans le baseball, puis là, la pluie va sûrement, malheureusement, nuire aux activités de 2 tournois de baseball dans la région, le Midget à Kilogami et le Calibre Atome à La Terrière. Il y a le tournoi de soccer qui se poursuit au parc Jean-Béliveau avec les 13 nations. Ça va se poursuivre tout le mois d'août. Et finalement, l'ultra-marathon qui a lieu en fin de semaine à Rivière-Éternité, en Saint-Jean et Petit-Saguenay. On va en parler un petit peu plus tard dans le vestiaire en compagnie de Raphaël Marchand. On s'arrête quelques instants et au retour, on va discuter avec un jeune boxeur de Jonquière qui va participer à une carte de boxe à Montréal, en fait à Laval, le 21 septembre prochain.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5, ma radio d'ici.
Non seulement la Fromagerie Boivin fait le meilleur fromage au monde depuis des générations, le meilleur petit crémeux, la meilleure poutine, elle fait aussi de la magie.
J'aime tellement le fromage Boivin que j'en mets même dans mes céréales.
La Fromagerie Boivin, fabricant de souvenirs depuis des générations.
Chez Tôle du Royaume, nous avons les meilleurs prix parce que nous sommes les seuls à fabriquer du revêtement d'acier dans la région. Exemple, nouveauté pour vos terrasses, deck en composite, deux couleurs au meilleur prix de la région. À seulement 35 $ la longueur de 13 pieds. Économisez de l'argent. Achetez du fabricant Tôle du Royaume, 1200 boulevard du Royaume, voisin du centre de liquidation du travail.
Les prix employés sont de retour chez vos concessionnaires Ford du Saguenay. Obtenez jusqu'à 11 942 $ en ajustement de prix total sur l'Escape hybride rechargeable 2024. Dépêchez-vous, cette offre est d'une durée limitée. Au Saguenay, c'est perrontoford.com et galeryford.com.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez l'Étoile Dodge
Chrysler. Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Notre invité dans le vestiaire, c'est un boxeur de 27 ans du club de Jonquière qui va disputer son deuxième combat professionnel le 21 septembre prochain à Laval, dans la catégorie des poids-plumes. C'est 129 livres, il mesure 5 pieds 6. Notre invité, Alex Gagnon. Alex, bonjour.
Salut Michel, merci pour l'invitation.
Deuxième combat chez les professionnels, mais tu vas te rappeler longtemps de ta première expérience chez les professionnels il y a quelques semaines à Calgary, où tu as su seulement quelques jours avant que tu allais monter sur le ring. Raconte-nous comment ça s'est passé.
Ouais, ben c'était à 6 jours d'avis, là. Son adversaire s'avait blessé, fait qu'il cherchait quelqu'un de dernière minute. Puis c'était une occasion un petit peu cow-boy, là. C'était seulement un billet d'avion, fait que c'était pas amené de coach avec moi. Puis, tu sais, j'ai pas eu une grosse préparation pour le combat. Donc, on est allé à la guerre comme on pensait. Puis finalement, écoute, je suis arrivé là-bas. J'ai su que j'étais à la demi-finale. De Jean Partant, je trouvais que C'est un bain assez lourd, froid pour un premier combat. Ensuite, là, une journée avant, la finale a été annulée. Fait que j'ai su que j'allais faire la finale là, pour mon premier combat pro. Fait que j'ai su que je m'avais embarqué dans une grosse aventure.
Premier combat pro. De tourner des rangs amateurs aux professionnels, c'est une grosse décision, Alex?
Oui, c'est une grosse décision, mais on était prêts. Ça fait depuis que j'ai 12 ans là, que je suis dans le domaine de la boxe et tout, dans le domaine de l'MMA aussi, là, des combats ultimes. Fait que je suis quand même quelqu'un d'habitué à ça. On était prêts. C'est sûr que la première opportunité, c'était peut-être pas elle que j'aurais accepté, mais écoute, je voulais avoir une première occasion, puis là, ça m'a permis pour en avoir une meilleure. Mais écoute, c'est sûr que la différence des gants et tout, ça peut être une bonne affaire, mais quand on est bien entraîné et tout, puis qu'on est rendu là, ça se passait bien.
Il y avait quand même 2-3 000 spectateurs à ton premier combat pro. Il y avait un stress supplémentaire parce qu'il y avait du monde?
Ouais, c'est sûr. Quand je suis rentré dans l'arène, sur le ring, puis tout, puis tous les photographes et caméramans qui te suivent. Puis là, quand j'ai vu la grosse entrée de mon adversaire avec les boucans et tout qui rentraient, là, j'ai compris qu'on avait sauté une couche là, de l'amateur.
Il y a plus de show chez les professionnels qu'à l'amateur. Ouais, là, il y avait de la boucane comme on voit à la télévision d'un gros combat, là.
Ouais, exact. Là, j'ai compris. J'avais comme pas réalisé. J'ai pas eu le temps de réaliser avec 6 jours de préavis. Là, j'ai réalisé quand sous le ring, avant que la cloche sonne, là, que je m'en avais qu'une grosse aventure.
Là, tu vas avoir plus de préparation. 21 septembre, ton adversaire s'appelle Maxime Lepage. C'est un gars de Montréal. Il y a 3 combats chez les professionnels avec une victoire, une défaite et un match nul. Qu'est-ce que tu sais de lui, ce boxeur-là, qui s'appelle Maxime Lepage?
Ben, on a été capable de trouver ses derniers combats, fait qu'on a été capable de analyser sa technique. Là, c'est un gars qui est technique, qui veut pas trop faire de corps à corps. C'est un gars qui est pas mal plus dans notre portée que le dernier. Puis avec le dernier combat, là, j'ai eu un nouvel entraîneur. Là, on a fait le saut avec José Malaison à Jonquière. J'ai gardé Nick Parent de Chicoutimi puis Charles Luce qui vient pour faire du sparring avec moi. Fait qu'on a fait une grosse équipe et une grosse préparation. Fait qu'on va être prêt pour ce combat-là.
Là, vous regardez plein de vidéos, vous essayez de trouver ses faiblesses, mais le gars, il a aussi des points forts.
Oui, il y a des points forts. C'est un gaucher, mais on est aussi un gaucher. Fait qu'actuellement, on a l'avantage de la main forte puis de surprendre l'adversaire. C'est assez rare qu'on se prenne contre des gauchers. Fait que c'est sûr qu'il y a une grosse main arrière, il va falloir avoir les mains hautes et se protéger comme il faut. Là, mais on a trouvé des forts qui vont faire que je pense qu'on va être capable d'aller porter avantage.
C'est-tu la première fois que tu vas affronter un gaucher, même si toi-même t'es gaucher, là?
J'ai déjà affronté en entraînement plus. En combat, je l'ai déjà fait sur les rangs amateurs, mais beaucoup plus jeune. Mais j'ai réussi à me trouver là, un gaucher pour mes entraînements. Fait qu'on a réussi à simuler quand même là, des belles simulations pour le combat.
Et ton combat à Calgary, là, ton premier combat pro, qu'est-ce que tu as besoin d'améliorer dans ta prochaine sortie pour l'emporter, justement?
Ah ben la priorité, c'était surtout la forme physique. Là. On passe de 3 rondes à 4 rondes, fait que c'est un 3 minutes de plus en partant. Puis tu sais, je veux dire, là-bas, tu sais, les petits gants, je veux dire, les mains hautes un peu, là, tu peux être plus un petit peu un amateur à ce fantasme avec les mains basses et tout, un amateur, ça peut arriver plus vite, puis ça peut être un peu plus avoir des petits impacts. Fait que c'est sûr que là, on travaille la garde, on travaille la forme physique surtout, puis on a un avantage plus un plan de match. Le dernier, tu sais, à 6 jours d'avis, j'ai pas eu le temps, puis tu sais, j'ai pas eu mon petit coach avec moi, là, c'est un coach qui parle anglais là-bas, qui... à Calgary qui m'ont fourni. Fait que, tu sais.
Hey, c'est un coach qui t'a fourni.
Ouais.
Hey, non, mais... tu connais même pas en plus.
Non, puis il parlait anglais, puis moi, je suis pas.
Ouais.
Pas super bilingue.
Alors, difficile de suivre les recommandations. Tu parles pas anglais, tu connais pas.
Non, exact. Là,
et mon Dieu, Seigneur.
C'est un jab, cross.
Ouais.
Fait qu'il n'y avait pas eu grand plan de match, là. Fait que là avec la belle préparation, puis au début, le combat était supposé être en juillet, là, le gala qu'on va faire là, qui a été reporté 2 mois. Fait qu'on a eu le temps de vraiment établir un bon plan de match, puis travailler nos forces et améliorer nos faiblesses.
C'est quoi le style d'Alex Gagnon quand tu montes sur le ring?
J'étais quelqu'un qui aime ça mettre de la pression, des belles mains hautes, j'aime ça bouger de la tête, j'aime ça surprendre l'adversaire sur des contre-punches. Je suis quelqu'un qui va se battre sur toi avec mon cœur, puis j'aime ça aller à la guerre.
Et tu pratiques, tu disais ça tantôt, tu pratiques les arts martiaux mixtes. Est-ce que ça t'aide dans ta carrière de boxeur?
Oui, c'est certain. Ça m'a permis d'avoir l'expérience, pas de casque, parce qu'en MMA, vu qu'on fait des soumissions à terre et tout, on peut pas avoir de casque, là, même chez les amateurs. Fait que, puis on a des petits gants, fait que j'avais déjà un petit peu goûté, j'avais déjà une petite saucette là-dedans pour que le feeling de ça. Puis c'est sûr et certain, là, toute expérience de combat peut être bonne, là, de vivre des moments, puis faire des combats. Quand je faisais pas de combat en boxe, j'allais faire des combats là, avec mon coach Maxime Gagné, là, qui était un des meilleurs au Saguenay. Fait que c'est sûr et certain que je suis allé chercher d'autres points forts là-dedans, puis d'autres améliorations.
Et un des avantages que tu auras le 21 septembre, tu vas avoir ton équipe, ton propre coach, puis ton équipe. Parle-nous un peu de ton équipe dans le coin.
Oui, le coach en chef, ça va être José Malaison, là, un gars qui... quand j'ai eu l'opportunité du combat après ça, justement, on s'est rencontrés, on s'est allés ensemble, puis c'était un bon match. C'était un peu de circonstances aussi, là, je suis rendu à Jonquière et tout, fait que c'était un bon fit. Après ça, il y a Nick Parent de Chicoutimi, que dans mes rangs amateurs, c'est toujours lui qui était là avec moi, avec Denis Gravel. Puis j'ai décidé que c'est lui qui va venir faire le cutman avec moi, dans le fond, le soigneur. Lui fait les bandages, puis dans le coin, s'assurer que tout est OK. Puis j'ai Charles Luce, un petit gars qui... Ben, pas un petit gars, un gars de mon âge, là, qui boxe dans les rangs amateurs aussi, là, un très bon calibre. Puis il vient avec moi pour me donner du sparring. C'est un gars qui a une bonne vision de boxe, fait qu'il analyse avec nous autres aussi l'adversaire, puis on trouve il nous aide à trouver des failles.
Dans les derniers jours, Alex Gagnon, il y a beaucoup de boxe à la télévision grâce aux Jeux olympiques. As-tu suivi ça un petit peu? As-tu regardé quelques combats?
Oui, j'ai suivi là, Watson Ford, qui a gagné la médaille de bronze. Écoute, je me suis levé à 6h du matin pour écouter ses combats et tout, puis c'était de la très belle boxe et tout un peu. Là. J'ai un peu suivi aussi. C'est plate que ça soit une controverse, fausse controverse, je ne sais pas trop qui a entouré ça.
Ouais.
Mais sinon, la boxe, j'ai bien aimé les Canadiens, ce qu'ils ont fait. C'est plate pour Tamara Thibault qu'on s'attendait à meilleur, mais écoute, ça fait partie de la boxe.
Alex Gagnon, on va souhaiter la meilleure des chances le 21 septembre prochain à Laval contre un boxeur de Montréal qui s'appelle Maxime Légaré, c'est
Lepage.
Bien ça? Lepage, Maxime Lepage. Hey, bonne chance, Alex!
Merci beaucoup.
Au revoir. Je vous rappelle qu'on a une médaille d'or aujourd'hui aux Jeux olympiques aux 4 fois 100 mètres. Ça a été spectaculaire comme ça se peut pas. C'est Brandon Rodney qui est arrivé le troisième coureur et il a redonné l'avance au Canada. C'est André de Grasse qui a fermé la marche pour une médaille d'or pour l'équipe canadienne. Dans un instant, notre nouveau collaborateur on jase de hockey avec Mario Roberge.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5. Ma radio d'ici. Les plaisirs démodés avec Mario Vézina.
Pour une troisième saison d'affilée, c'est avec un immense plaisir que je vous annonce que pour la période estivale, mon émission Les plaisirs démodés aura comme partenaire le club de golf Le Ricochet de Chicoutimi. Reconnu pour la qualité de son accueil et pour la diversité de son offre, le club de golf Le Ricochet vous attend pour la pratique de votre élan, frappe de balle, pour le plaisir de jouer son par 36 ou son par 27, et même pour relever les défis du mini-pot en famille ou entre amis, le seul mini-pot extérieur au Saguenay. Le club de golf Le Ricochet, Chicoutimi, 1571 boulevard Saint-Jean-Baptiste, au 418-693-8221, fier partenaire des plaisirs démodés pour la saison estivale.
Viens, découvrons, toi et moi, les plaisirs démodés.
Quand on porte des prothèses dentaires depuis trop longtemps, Dominique, on peut se rendre compte que notre visage se transforme, que mastiquer peut-être devient plus difficile.
En fait, Annick, je dis toujours que c'est pas nécessaire d'attendre de perdre son dentier en soufflant sur les bougies de son gâteau d'anniversaire pour penser à le changer. Je vous dis ça avec humour, mais à titre de denturologiste, je vous invite sérieusement à faire attention à votre bouche, à la santé de vos gencives, à votre système digestif aussi. Tout a un lien. Attendez pas que vos prothèses soient trop usées.
À la clinique Mon Denturo de Jonquière, la première consultation est gratuite et sans aucune obligation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.
Émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés. Dynamique. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez
l'Étoile Dodge Chrysler.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
Notre prochain invité, notre collaborateur, je vais dire le chanceux, mais dans le fond, il a mérité sa bague de la Coupe Stanley. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter d'avoir une bague de la Coupe Stanley. C'est Mario Roberge. Mario, bonjour.
Salut, Michel.
Puis tu nous racontais ton parcours. Tu sais, quand je dis que tu as mérité ta bague, la Coupe Stanley, tu n'as pas eu un parcours facile. Tu nous as raconté ça la semaine dernière. Et quand vous avez gagné la Coupe Stanley en 1993, Mario, vous étiez 13 ou 14 Québécois. Ça donnait un bon esprit d'équipe et du caractère pour gagner des victoires. On n'a plus bien de Québécois dans l'alignement du Canadien, là.
Ben oui, Michel, c'est en plein ça. C'est que il faut comprendre que moi, j'ai beaucoup de misère à m'expliquer. Comment se fait-il que c'est rendu difficile jouer à Montréal pour un Québécois? Ben, la raison est simple, c'est le peu de nombre de Québécois, justement, avec les médias surtout.
Puis on les invite pas, les Québécois et les francophones dans les différents camps d'entraînement. Il faudrait qu'il y ait plus de joueurs invités, même s'ils ne sont pas repêchés. Là.
C'est un dossier qui me chicote depuis au moins une trentaine d'années. Si je te dirais, depuis le départ de Serge Chabard à la base canadienne. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on est rendu là. Je me mets à la place des jeunes hockeyeurs québécois. Moi, écoute, on en a eu une tonne. Même dans la ligne américaine, on avait la Kid Lane avec Gilbert Dionne, Jesse Bélanger et Patrick Lebeau. On avait des Québécois qui sortaient d'un peu partout pour aller jouer dans la Ligue nationale. Et aujourd'hui, parce que c'est un sujet qu'on a abordé un petit peu la semaine dernière, Michel, quand tu m'as posé la question au niveau des bagarres, surtout l'élimination des bagarres dans la Ligue junior du Québec seulement, ou les maritimes encore, là, dans ce cas. Mais il reste que c'est troublant. Moi, je trouve ça troublant.
Puis c'est malheureux parce que quand vous avez gagné la Coupe Stanley, ça, tu peux nous en parler, ce qui se passait dans le vestiaire du Canadien. L'esprit d'équipe, l'esprit de corps, vous vouliez gagner, puis vous l'avez remporté, cette Coupe-là.
L'esprit d'appartenance, surtout, je te dirais. Tu sais, il y a des joueurs qui, bon, porter le chandail du Canadien, ça veut dire beaucoup. Et surtout, quand tu vis au Québec, ça veut dire encore plus. Nous, on se devait de gagner parce qu'on savait que l'été qui s'en venait, là, ben on l'aurait à subir toute la partisanerie que ça l'emmène. Quand que tu évolues pour un club et que après la saison, surtout quand tu ne fais pas les séries, comme c'est le cas du Canadien depuis belle lurette, et là, on s'en va chez nous. Après, on n'a pas affaire à citer à personne. On se retourne dans notre pays, on se retourne dans notre région. Et on va revenir au prochain camp d'entraînement, ce qui est en même ce qui se produit présentement avec le Canadien. On n'a plus personne qui nous représente vraiment au niveau estival. Là.
Et l'année que vous aviez gagné la Coupe, Mario, quand tu es retourné dans ton patelin, là, tu as dû entendre parler, puis ça devait être positif, les commentaires.
Ben, la tournée de balle, Michel, on a fait une tournée de balle régionale. C'était fabuleux. On s'est promené, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait de ville. On était 14, on avait assez de faire un club de balle.
Oui, exactement.
Faut comprendre.
Puis,
c'est troublant. Je trouve ça troublant parce que je comprends pas. Je ne comprends pas. Au moins si, on, avec des Québécois, tant qu'à finir 28e sur 32 clubs, ben, je me dis, ben, faisons confiance à nos semblables. Un peu comme les Bruins de Boston le font. C'est bizarre, mais personne ne parle de ça. Là. Mais la reconstruction des Bruins de Boston, c'est quand la dernière reconstruction? De cette organisation. Il n'y en a pas eu.
Il n'y en a pas de reconstruction. Ils sont bons d'année en année, les Bruins de Boston.
Ben, ils repèrent des jeunes du Massachusetts à l'entour de l'aréna. Des gars de la place. On sort des noms de comme un chapeau, un magicien avec un chapeau magique. Là. On sort des noms et on est tout le temps compétitif.
D'après toi, Mario, avec le dernier repêchage, les derniers repêchages, penses-tu que le Canadien pourra se rebâtir rapidement, parce qu'il y a des bons jeunes qui s'en viennent, là.
Ben, des bons jeunes, ça me paraît aussi, parce qu'on regarde les autres organisations aussi, il y en a des bons jeunes qui s'en viennent. Si on regarde le Canadien, c'est toutes des bonnes équipes qui font partie de cette division-là. Il n'y a pas personne qui va faire des cadeaux aux Canadiens. Et le Canadien semble dire, on reconstruit. Ben, ils ne sont pas les seuls non plus qui reconstruisent, là.
Ils ne sont pas les seuls à avoir des bons jeunes joueurs recrues.
Il y en a partout des bons jeunes, mais c'est surtout les jeunes qui veulent porter l'uniforme, la fierté d'être un joueur du Canadien.
C'est ça, la fierté. On ne l'a plus à fierté. Aujourd'hui, les préparations, là, on est au mois d'août. À l'époque où tu jouais professionnel, Mario, ça a changé les préparations pour l'été, pour se présenter au camp d'entraînement, pour être en forme. Aujourd'hui, il y a des écoles de hockey, il y a des entraîneurs privés. Dans le temps, vous n'aviez pas ça, Mario?
Non. Nous autres, je te dirais, Michel, que nous, là, on se donnait quasiment un bon mois de congé. Là. Après la saison, là, on avait au moins un bon mois. Là, pis, et ensuite, là, on mettait la pédale au fond pour l'entraînement. Il y a aussi une question aussi de désir. Il ne faut pas venir trop blasé non plus. Je trouve peut-être qu'on en met un petit peu plus. Là. Je pense que c'est pas méchant non plus de quitter la surface glacée puis passer à d'autres choses, ne serait-ce que pour un mois ou un mois et demi. Parce que dans le fond, là, les hivers sont longs.
Les hivers sont longs.
Les trajets puis tout ce que ça comporte, là, ça peut rentrer dans la tête d'un jeune de 18-19 ans assez vite. Et surtout que les jeunes d'aujourd'hui, ben, on n'a pas la même culture que dans le temps. On regarde avec les téléphones intelligents et toutes les tout au niveau technologie, les avancements qu'on a eus. Donc, je pense qu'en ce cas, il faudrait peut-être regarder ça dans un avenir qui s'en vient. Il faudrait peut-être changer les choses un petit peu. Selon moi, on surtaxe les joueurs un petit peu trop.
Un peu trop, hein?
Oui.
Mario Roberge, il y a quelques années, tu avais fait les manchettes parce que tu avais sauvé deux femmes dans un feu.
Oui.
Pour le bénéfice de nos auditeurs auditrices, peux-tu nous raconter comment ça c'était arrivé où, cette histoire-là?
À Montmorency, où est-ce que je suis présentement, j'étais juste à deux pâtés de mon appartement. Et c'est je partais le matin de bonne heure parce que je travaillais pour Congébec. Je travaillais à Mansour, qui était à une heure de route. Je me levais à 5 heures du matin. On décollait vers 5 heures et demie. Et puis là, on a une petite odeur de fumée. J'ai démarré mon véhicule. On était le 23 janvier, deux jours avant ma fête. Et puis là, une petite odeur de fumée qui m'est arrivée au nez. J'ai regardé dans le balcon, là, au bord, j'ai vu qu'il y avait de la boucane de fumée qui sortait de l'appartement en haut. Donc, je me suis dirigé là. J'ai arrivé là, il n'y avait pas d'électricité dans l'appartement. J'ai ouvert un petit garage, un genre de petit carrefour qu'on appelle, là. Et puis, il y avait deux dames, une mère et sa fille, une mère de 90 ans et sa fille de 70 ans, qui habitaient ensemble. Ils s'en venaient, eux, en robe de chambre à la noirceur quand j'ai ouvert la porte. Ça semblait à deux chandelles
ouais.
Dans le noir, qui s'en venaient tranquillement. Et là, ben, ils m'ont demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que le feu était pris et qu'il fallait quitter immédiatement. J'ai pas transporté personne. Ils étaient quand même capables de se déplacer. Mais j'ai été les chercher. Il faisait, je pense, moins 25 dehors ou moins 30. C'était une des journées, des soirées les plus fraîches qu'on a eues dans l'hiver. Et puis, ben, vu que je restais à deux pâtés de là, fait que on s'est dirigé chez moi. Et là, ben, ma copine nous a accueillis. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Vous les aviez pris en charge, dans le fond?
Ben, c'est ça. Ben, petite madame, la maman, elle n'avait pas ses dentiers. Elle n'avait pas ses bas.
Oh, boy!
On a fourni des bas. Puis, c'est sûr qu'on n'a pas le capable de se fournir des dents. Là.
non, sûrement pas.
Complexe. Ben, ça s'est bien produit, ça s'est bien terminé, dans le fond.
Bon, ben bravo, ça va être un bel exploit. Je suis content de l'entendre.
La madame, la plus vieille, elle a été intoxiquée un petit peu à la fumée. Elle a passé une semaine à l'hôpital, mais sa fille, elle a quand même sorti rapidement. Mais tout s'est bien terminé, mon Michel.
Ben bravo pour l'exploit. On va se reparler à nouveau vendredi prochain. Toujours un plaisir de parler avec Mario Roberge dans le vestiaire.
Merci, Michel.
Salut. Au revoir.
Bonjour à tout le monde.
Au revoir. Je vous rappelle que ce soir, il y a un match de la Coupe Linka-Gretzky, le Canada qui joue contre les Américains. On espère pouvoir récolter la première position dans ce championnat. Il y a des tournois de baseball en fin de semaine ici à Saguenay, mais on annonce de la pluie. Et ce soir et toute la fin de semaine, les tournois de golf et les tournois de baseball, puis soccer à Jean Béliveau, là, il y a un tournoi que... Soccer, c'est pas comme le baseball. Le baseball, quand la balle commence à être mouillée, là, c'est difficile pour les lanceurs. Soccer, on se fait mouiller, mais le ballon. Mais au baseball, jouer dans la pluie, c'est pas évident parce qu'il y a un tournoi à La Terrière. Il y a un tournoi à Kenogami également, fin de semaine, pour les midgets. La Terrière, c'est le calibre atome. Jean Béliveau, ben, c'est un gros tournoi qui a lieu à chaque fin de semaine pour le soccer. Et les voyageurs vont commencer leur série la semaine prochaine. Les voyageurs qui ont gagné leur première partie hier. Ils venaient déjà 7-0. Ça s'est terminé 12-0 pour les voyageurs. Puis il y a eu même un match sans point de coup sûr pour le lanceur des voyageurs, qui vont commencer leur série à Charlebourg la semaine prochaine. Les élites midget sont en match hors concours. Ils ont perdu hier 4-3. Puis les Saguenayens, c'est le week-end prochain que ça commence. Le camp d'entraînement. Alors, vraiment, le hockey, ça s'en vient. Dans un petit moment, on va jaser de courses de chevaux, mais pas avec Max Bradette. D'habitude, c'est Max qui nous parle des courses de chevaux. C'est Jean-François Reed, qui est originaire de Jonquière, qui sera notre invité.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5, ma radio d'ici.
Salut, ici Roger Lemay. Je vous annonce qu'à compter de septembre, tous les dimanches entre 9h et midi, eh bien, j'aurai le plaisir de vous présenter sur les ondes de CKJ ma toute nouvelle émission intitulée « Roger le dimanche ». Des infos, la météo, des anecdotes, mais surtout des mélodies d'hier à aujourd'hui qu'on revisite dans la bonne humeur. Des entrevues aussi avec des personnalités inspirantes. Roger le dimanche, quand les succès d'hier vous font vibrer encore aujourd'hui, Roger le dimanche, ce sera votre dose hebdomadaire de chansons ensoleillées, peu importe le temps qu'il fera dehors.
Un tout nouveau collaborateur se joindra au 92.5 pour la nouvelle saison qui débutera de Gélina, alias Régente Terrebonne.
Je te fais fader.
Vous offrira les petites vites tous les jours à partir de 6h15 dans l'émission Réveillez-vous, une chronique par jour, 4 fois par jour. À ne pas manquer, les petites vites de Jean-Claude Gélina, tous les jours dans l'émission Réveillez-vous, dès le 3 septembre prochain, une exclusivité régionale du 92.5.
C'est les petites vites dans le don-don.
Avec Jean-Claude Gélina.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
C'est une toute nouvelle concession qui vous attend chez l'Étoile Dodge de Jonquière. Avec plus de 5 millions en investissement, une superficie doublée, une salle de montre remodelée et un nouveau département de service avec plus de 11 lifts et tous les équipements à la fine pointe de la technologie, l'Étoile est prête à vous accueillir avec toujours le même bon service donné par ses 35 employés dynamiques. Venez nous voir et sentir la nouveauté chez
l'Étoile Dodge Chrysler.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifo et Dominique Bolduc.
Ah, les courses de chevaux, on en parle régulièrement, même si l'hippodrome était fermé depuis plusieurs années à Saguenay, à Jonquière. On en parle régulièrement avec Max, mais là, on va discuter du sujet avec Jean-François Reed. À Montréal, il est connu sur le nom de Jack Reed, mais étant donné qu'il est originaire de Jonquière, on va l'appeler Jean-François. Bonjour, Jean-François.
Salut, Michel, comment ça va?
Très bien. Tu viens d'être nommé président de l'Association Trotte et Amble du Québec. C'est un poste qui consiste à quoi?
Ça fait déjà un an et demi que je suis impliqué au sein de l'association. C'est une association, dans le fond, qui regroupe là, tous les gens qui sont vraiment directement impliqués dans les courses de chevaux au Québec. On parle des palefreniers, des propriétaires, des conducteurs, des entraîneurs et des éleveurs. On va dire environ 500 personnes dans notre association. On a 9 directeurs, puis l'idée, c'est de vraiment bien représenter l'industrie, tant au niveau des éleveurs, des professionnels que des propriétaires.
Ton implication dans le domaine des courses de chevaux, c'est sûrement un héritage de ton père Claude, que j'ai très, très bien connu. Quel multisport qu'il était, ton père Claude. C'est sûrement un héritage de ton père, parce qu'il était impliqué aussi, Claude, oui, dans le domaine des courses à chevaux.
Ben oui, 100%. Ça vient de mon père, ça vient du temps qu'on a coursé des chevaux à l'hippodrome de Jonquière, là, fin des années 80. Fait que ça a commencé là, puis après ça, on a une petite pause quand l'hippodrome a fermé à Jonquière, mais on a recommencé au début des années 2000 à en avoir plusieurs. Puis on a continué, on a notre propre élevage et continué ce que je faisais avec mon père, mais avec ma soeur Marie-Claude. Donc, on élève des chevaux et tous les chevaux qu'on élève s'appellent des Kenogami. Fait qu'on va avoir d'ailleurs notre Kenogami Coco qui court en fin de semaine à Saint-Aimé. Puis c'est une belle passion. Là.
Alors, ta soeur jumelle, Marie-Claude, est impliquée également dans le monde des courses?
Oh oui. Très impliqué, effectivement. On a deux juments poulinières ensemble, puis on a des chevaux de course ensemble. Fait que j'en ai avec différents partenaires, mais dont avec ma soeur Marquette.
Comme nouveau président de l'Association de Trotte et Amble du Québec, quelle est votre vision de l'industrie? Parce que ça connaît un regain de vie, mais il faut le dire, Jean-François, ça demeure toujours fragile?
Tu as fait raison là-dessus, Michel, tu sais, c'est fragile. Mais si je me suis impliqué, c'est vraiment parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette industrie-là, puis il y a un fort potentiel d'amener ça à un autre niveau. On sait que ça l'a déjà été beaucoup plus fort au Québec. Si on fait juste regarder les ferries sur l'hippodrome de Trois-Rivières, là, il y a vraiment une hausse impressionnante là, dans les 2-3 dernières années. Là. Le dimanche, on est souvent autour de 200 000 de paris par programme. Le vendredi, c'est plus autour de 100 000, alors qu'il y a de ça, pas si longtemps, on était plus dans les environs de 50-60 000. Mais quand on regarde d'autres juridictions au Canada et aux États-Unis, on voit qu'il y a des choses à faire qui peuvent être intéressantes. Puis la fragilité là, vient aussi du fait qu'on aurait besoin d'un petit coup de pouce du gouvernement là, à cet effet-là. C'est la seule juridiction au Québec qui n'a pas d'aide ou d'une forme de support au niveau du gouvernement. Puis je suis convaincu que Max l'a déjà dit en onde à ton émission, là, mais on ne reçoit rien du gouvernement, puis on remet 2,5 % de tous les paris. Donc il y a eu certaines propositions qui ont été faites au début de l'année. D'ailleurs, notre association, l'ATAC, les hommes à chevaux, on a contribué à ça avec le Club Jockey du Québec, mais vraiment à positionner au niveau économique. Qu'est-ce que ça voudrait dire si le gouvernement nous donnait un petit coup de pouce? Quelles retombées il pourrait y avoir? Il y a des études canadiennes qui ont déjà été faites. Puis nous autres, on voulait ramener ça au niveau du Québec puis vraiment mettre du concret pour le gouvernement. Fait que ça fait partie des rôles que notre association joue.
J'espère que tu as des bons contacts au gouvernement parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche pour le nouveau président.
Oui, pas facile. Je te ferai pas croire là, que ça se fait en claquant des doigts. Mais du côté du Club Jockey du Québec qui organise les courses au Québec, il y a Sophie Mongeon qui est la nouvelle présidente depuis l'automne dernier qui amène un vent nouveau avec des contacts différents. Puis je pense qu'à plusieurs personnes, à mettre autour de la table, là, la bonne personne dans la bonne chaise, on va être capable de relancer ça puis de faire quelque chose d'intéressant.
J'ai le goût de te demander, Jean-François Reed, par rapport au circuit régional, peut-on rêver à une plus grande représentation dans le futur?
Oh, ça, c'est sûr qu'on aimerait ça. Surtout d'avoir des courses au Saguenay. Tu sais, ça fait longtemps que le projet...
Hey, là, tu vas faire triper Max Bradette, là, des courses au Saguenay.
Là-dessus, moi, puis Max, on pense la même chose. Il y a Sylvain Tremblay, en faute à Métabetchouan, qui est probablement l'endroit, le site le plus près de tenir des courses. C'est un projet qui a été étudié avec Fred Couture. L'idée, c'est d'avoir une étape du circuit régional au Saguenay.
Mais à quelle place on fait ça au Saguenay?
Présentement, Sylvain, lui, est à Métabetchouan.
Ouais, Métabetchouan, là. Mais peut-on rêver? Des fois, Max, il en parle en onde, parce que s'il y en a un qui vend les courses de chevaux à notre station de radio, c'est Max. Peut-on rêver un jour de retrouver une piste de course?
Une piste de course avec 40-50 programmes par année, c'est peut-être optimiste en date d'aujourd'hui, mais un endroit où on pourrait courser plusieurs fois dans une saison, ça, dans ma tête, ça serait plus plausible et ça ferait du sens d'être capable de recevoir les gens du Saguenay avec un produit intéressant à regarder.
En terminant, j'ai encore plein de questions, mais j'ai le goût de te demander, quand tu étais jeune, tu étais très jeune, on a fermé l'hippodrome de Jonquière, quels sont tes derniers souvenirs de l'hippodrome Jonquière?
Oui, ça, c'est déchirant de dire une fermeture de l'hippodrome. Puis les gens qui l'ont vécu à Montréal, à Blue Bonnet, tu sais, je pouvais un peu comprendre comment ça s'est passé pour eux. Parce qu'effectivement, là, on a été dans à l'hippodrome encore au moins un an après la fermeture. Mon père avait repris, entre autres, le contrat d'électricité. Puis les gens qui étaient là s'organisaient pour de temps en temps aller courser à Québec et à Trois-Rivières. Puis c'est de vivre un déclin, une mort annoncée, là, ça, c'est vraiment triste de voir ça. Là. Puis il y a un endroit qui avait quand même du potentiel pour un bon bassin. Tu vois, en fin de semaine, là, il y a des courses à Saint-Aimé-des-Lacs, dans le bout de Clermont, puis tu sais, les fidèles du Saguenay sont encore là. J'ai confirmé avec Fred Couture tantôt, mais il y a un autobus qui est organisé avec Max, avec Lisette, la femme à Combe, qui se remplit facilement chaque année. Il y a un bassin de gens qui aiment les courses au Saguenay, il n'y a pas de doute.
Est-ce que c'est le cas que tu vas conduire? T'as-tu déjà conduit? Ça va être ta première course?
Première fois, ça commence demain, Michel. J'ai bien hâte, bien fébrile par rapport à ça. C'est un projet qui fait partie aussi de l'association, c'est-à-dire de relancer le circuit amateur. Donc, on a approché le Jockey Club cet hiver avec cette idée-là. Ça marche bien à Midland, au New Jersey, puis sur d'autres grandes tracks. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ici? Fait qu'on a parti une nouvelle série pour les amateurs. On a eu 4 courses au mois de juin à l'hippodrome de Trois-Rivières. Pendant le mois de juillet, le mois d'août, les conducteurs amateurs peuvent accumuler des points sur le circuit régional. Et on va avoir 4 autres courses au mois de septembre pour culminer avec une finale au mois d'octobre. Moi, c'est ma première course demain parce que la jument que j'avais achetée justement pour courser dans les amateurs a fait une petite infection. Le temps qu'on la traite comme faut, qu'on la ramène aux courses, fait que ça commence demain. Puis j'ai très hâte. J'ai hâte de voir. L'idée, c'est de s'amuser, mais on est tous compétiteurs un peu. Hein? On veut bien faire paraître notre cheval. Puis...
Hey, les Reed, vous êtes tellement compétiteurs dans le sport. As-tu l'intention d'en faire une carrière?
Non, pas du tout. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça, mais c'est sûr que ça te fait comprendre bien des affaires, tu sais, de t'asseoir en arrière du solky, puis voir ton cheval, comment il va, puis tu sais, hop, on a travaillé sur le jarret ou sur le boulot en avant, puis là, tu vois un peu plus comment ça se passe, mais c'est fun de comprendre la réalité du conducteur. Moi, je veux avoir l'écurie la plus compétitive possible, je veux faire affaire avec le meilleur vétérinaire, le meilleur forgeron, le meilleur conducteur, tous les meilleurs dans leur domaine. Quand je mène, moi, c'est pour m'amuser.
Si tu me permets, je veux te parler de ton père. Claude, que j'ai connu dans bien des sports, Claude, c'était l'athlète multidisciplinaire. Puis, il était bon au hockey, il a joué junior majeur, il était bon au baseball, à la balle, au curling, au golf, il était incroyable. Comment se fait-il que toi, tu te retrouves des courses de chevaux que tu n'as pas suivi ton père dans les autres sports?
Et la réponse est facile, j'avais pas le talent de mon père, ça c'est sûr.
Ouais, mais lui, il avait un talent brut, là. Claude Reed, là, c'était tout qu'un athlète. Mais t'as-tu joué au hockey, tu jouais au golf? T'as un de tes oncles, Serge Reed, est l'un des meilleurs de curler au Canada?
Exactement, Serge a représenté le Québec au Brier. J'ai touché un peu à tous ces sports-là, mais jamais de façon au niveau élite, comme mon père l'a fait. Okay. Mais je suis un sportif assumé, là. J'aime bien le sport.
OK, puis là, je veux revenir un peu. C'est à Saint-Aimé-des-Lacs, c'est dans Charlevoix, ça?
Exactement. Saint-Aimé-des-Lacs, demain 13h et dimanche 13h. Il y a 40 000 $ en bourse en fin de semaine. 10 courses samedi, 11 courses dimanche. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, Michel. Là. Il y a des jeunes chevaux qui sont en apprentissage. Il y a des très bons chevaux aguerris. Le calibre est très relevé. Là. Je te donne juste un exemple. Là. Dimanche, dans le Challenge Invitation Charlevoix des trotteurs, on a Royalty Bear qui fait un retour en course. Lui, il a coursé à Yonkers de janvier à mai de cette année. Il était dans l'invitation à Yonkers avec les meilleurs chevaux. Il a collecté 134 000 US. Ils l'ont reposé, ils l'ont rafraîchi pendant l'été. Et là, il fait son retour en piste dimanche ici à Saint-Aimé, probablement pour se préparer pour aller faire la saison d'automne et d'hiver à Yonkers encore. On a Frozen Hanover. J'ai mon Kenogami Coco que je pars aussi dans le Challenge Charlevoix. On a une course de 2000 qui est toujours intrigante parce que toutes les courses qu'on fait au Québec, c'est des courses d'un 1000. Là, c'est quel cheval qui va avoir le plus de réserves pour finir son 1000. Je vous dis, là, pour les gens qui vont être présents et les gens qui veulent nous suivre aussi sur Facebook, n'hésitez pas sur la page du Circuit régional des courses du Québec. Ça va être disponible live gratuitement.
Question un peu technique. J'ai le goût de te demander, un cheval de course, ça a une durée de vie de combien de temps pour courir, pour faire de la compétition?
Les chevaux doivent arrêter de courir à leur 14e anniversaire. Donc, ceux qui se rendent...
C'est un règlement, ça?
Oui, exactement, un règlement qui existe. Sauf sur le circuit régional, puis j'ai pas la technicalité, mais je pense que tu peux faire courir un cheval de 15 ans sur le circuit régional parce que c'est des hippodromes amateurs. Mais à Trois-Rivières, c'est 14 ans, l'âge limite. Il y en a combien qui se rendent à 14 ans? C'est pas évident. Là. Je dirais que les chevaux atteignent leur apogée à 4-5 ans.
Puis c'est une durée correcte. À 4-5 ans, ils sont dans leur top de vitesse, de force. Puis ça dure combien de temps?
Là, ben, tu essaies de les étirer, mais ils n'ont pas toutes la même constitution physique, ils ne sont pas toujours utilisés de la même façon non plus. Il y en a qui vont en guerre à toutes les semaines, il y en a qui modèrent un petit peu plus leurs efforts. Ceux qui ont un petit peu moins de cœur, d'habitude, ils se rendent longtemps.
OK.
Ça fait mal.
Et vous en avez combien des chevaux? T'es avec Marie-Claude dans ça, ta sœur jumelle. Vous en avez combien des chevaux de course?
En date d'aujourd'hui, là, j'en ai 18.
Aïe, aïe.
8 chevaux de course qui sont en course présentement, puis on a 10 juments poulinières et des bébés. 4 bébés de cette année, 2 bébés de l'année passée qui vont être adoptés cet automne. Que je fais la séparation entre les deux parce qu'il y en a qui sont en course puis qui gagnent leur vie, puis il y en a, ben c'est encore à venir.
Sais-tu qu'est-ce qui me fait triper dans ce milieu-là? C'est le nom des chevaux. Tu sais, là, tu m'as parlé tantôt de Keno Kenogami, là. Coco, hein? Coco Kenogami. J'adore ce nom-là. Peux-tu nous en donner une couple de noms? Je trouve ça mignon, le nom que vous donnez à vos chevaux de course.
je vais te sortir la liste pour demain.
Sors-moi une coupe, ouais. Ça,
t'as raison. Puis tout le monde essaie de faire sa marque un peu, là. Moi, je suis allé avec le nom Kenogami parce que j'étais pas mal sûr que j'allais être seul avec ça, là. Fait que...
Ouais.
Les gens reconnaissent rapidement mon élevage. Mais demain, on a Cowboy Killer.
Cowboy Killer, OK, on continue.
On a Cheeky Love.
Cheeky Love. Ça fait plus danseuse, ça, Cheeky Love, là.
On a Gold Nugget.
OK.
On a Albert Alpha. Tous les chevaux à Sylvain Tremblay de Metabitch One, c'est des Alpha, c'est la
OK, alpha. Lui, c'est Albert. Albert Alpha.
Exactement.
Okay.
Après ça, on a Camille Pou. En homme en rafale, on a Gringo Star.
Gringo, pas Ringo, Gringo Star, j'adore! Vous autres, vous me faites triper avec vos noms de chevaux, là. Gringo Star! J'adore!
On a Matt Pacha aussi demain avec conducteur amateur du nom de Mario Dupont.
OK.
Plusieurs personnes qui vont faire leur début sur le Sulky en fin de semaine. Là. C'est ça qui est le fun du circuit régional. C'est les gens ont la chance de participer. On ne fait pas juste regarder, mais on participe. Là. Entre autres, Marie-Soleil Dubois qui va faire sa première conduite dans les professionnels. Marie-Soleil est vétérinaire. C'est la conjointe de Max Vallée. Ça va être le fun de voir sur le Sulky en fin de semaine.
Ben là, j'ai beaucoup de bonne chance. Là. Bonne chance pour ta première course demain. Bonne chance comme président de l'association. Puis longue vie à tes chevaux.
Merci, très apprécié, Michel. Puis au niveau de l'association, bien, on va mettre tous les efforts. Il n'y a rien qui nous garantit du succès, mais il y a une chose que je peux te garantir, c'est qu'on va travailler fort.
Merci beaucoup. Au revoir, Jean-François Reed.
Salut, Michel.
Alors, il y a Ringo Starr, l'ancien Beatles. Il y a Gringo Starr, un cheval de course. Ça me fait tellement rire, là, les noms. Puis je trouve ça original. Et ça donne la couleur aux courses de chevaux. Il est 16h15, là, on s'est promené pas loin de Charlevoix. Tantôt, on descend au Bas-Saguenay, là. Parce qu'en fin de semaine, il y a l'ultra-marathon qui se déroule dans trois municipalités, à Rivière-Éternité, à Lens-Saint-Jean, puis à Petit-Saguenay. On discute de cette activité, de cette course, avec Raphaël Marchand.
Dans le vestiaire, l'équipe étoile 100% régionale vous revient après cette pause publicitaire au 92.5, ma radio d'ici.
Chez Paysan, on vous débarrasse de votre vieux bazou. Puis pour ce qui est de la paperasse, les papiers de la sac, on s'en occupe. Votre bazou roule plus, on vient le chercher en remorque. Qu'est-ce que t'attends? Paysan imbattable. 696-0597.
Du 23 au 25 août, ça se passe à Kenogami en fête. Vendredi soir, les cornets volants, Bob et les Macalous et le Crocodile Country Rock hommage à CCR.
Samedi 14h,
Arthur l'Aventurier et les Trésors du Maroc.
En soirée,
Burma Street Band et Jonas.
Dimanche,
Blanc dehors suivi d'André Deschaines et Jérôme Manger.
Samedi et dimanche,
animation sur le site dès 10h. Pour connaître la programmation complète, visitez la page Facebook de l'événement. Kenogami en fête, une présentation de la Corporation Centre-Ville de Kenogami en partenariat avec Ville de Saguenay, Patrimoine Canada et le gouvernement du Québec.
Vous êtes dans le vestiaire avec Michel Tifot et Dominique Bolduc.
Je reviens à Claude Reed. Il aura marqué l'histoire et le monde du sport ici dans la région pour avoir joué au golf avec. Il frappait une balle là, comme ça se peut pas. Puis c'était pas un gars, t'as pas un gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2. Là. Quel athlète qui a marqué l'histoire du sport dans la région. Maintenant, les courses. Il y en a des courses à pied. On en discute avec Raphaël Marchand. Raphaël qui va nous jaser de l'ultra-marathon. Bonjour, Raphaël.
Bonjour, ça va bien?
Très bien. Démêle-nous un petit peu parce que j'entends parler de deux ultra-marathons, celui en fin de semaine, puis il y en a un autre au Lac-Saint-Jean pour le camp. Alors, c'est quoi la différence?
Oui, c'est ça. Dans le fond, l'ultra-marathon, c'est le nom comme d'une discipline sportive qui représente toutes les courses à pied de plus que 42 km, dans le fond. Fait que toutes les courses qui dépassent la distance marathon, là, ça s'appelle l'ultra-marathon. Puis Ultramarathon Lequin, il l'avait appelé comme ça, étant donné qu'il faisait le tour du lac Saint-Jean complet là, en une fin de semaine. Là. Mais nous, c'est vraiment la discipline sportive qui est ultramarathon, là, qu'on appelle ça comme ça.
Alors, l'ultramarathon lac Saint-Jean pour la cause de Lequin. Vous autres, avez-vous épousé une cause?
Oui, c'est ça. On a la Fondation de la jeunesse de Saguenay, dans le fond, qui a embarqué avec nous autres cette année. Là. On a fait un beau petit partenariat avec eux autres pour ramasser des fonds. Là, on va vendre la pizza toute la fin de semaine là, au profit de la Fondation. Là. Et tous les participants vont être capables d'avoir de la pizza. Puis ça fait une belle cause en même temps à côté avec la course là, qui est le fun à faire.
Raphaël, je suis impressionné par le nombre d'inscriptions, le nombre de participants. Près de 1000, c'est donc bien populaire.
Bien, c'est ça, c'est un sport qui est vraiment en essor là, depuis, on pourrait dire, 5-6 ans. Là, il y a énormément d'événements au Québec là, qui se développent de plus en plus. Puis, tu sais, c'est sûr, quand on a parti ça l'année passée, là, avec tous les paysages et les territoires qu'on est capable de toucher dans le Bas-Saguenay, là, c'est un petit peu... on considère que c'est pas mal le plus beau coin au Québec qu'on a. Là. Fait que le mot s'est passé, c'est ça, qu'on était capable de passer de 550 participants à près de 900 cette année, là, qui est quand même assez incroyable pour un petit village comme Lens-Saint-Jean, Rivière-Éternité et Petit-Saguenay. Là.
Et vous avez combien de distances à parcourir? Là, parce que c'est demain puis dimanche, vous avez deux journées.
Oui, c'est ça. Dans le fond, nous autres, on a 5 distances, puis on parlait d'ultramarathon tantôt. Là. Notre plus grande distance, ça va être 160 km. Fait que c'est un défi sportif qui peut prendre jusqu'à 36-37 heures à compléter. Puis après ça, on a une distance de 100 km, 50 km qui termine demain aussi. Puis après ça, on a un 10 km, 20 km du côté du Mont-Édouard dimanche.
Hey, je regarde ça, le premier départ, la première course à la sortie des bars. Vous faites ça à 4h du matin. Il va faire noir. Avez-vous prévu de la sécurité supplémentaire?
Oui, c'est ça. On a vraiment une belle équipe de sécurité. Dans le fond, on est supporté avec le club de Quatrefiards aussi. On a une équipe spécialisée qui arrive du Mont-Saint-Anne, qui s'occupe des plus grosses courses au Québec, qui viennent d'arriver justement. Ils vont s'occuper de la sécurité parce que c'est quand même des énormes tâches. Il y a beaucoup d'ampleur pour s'assurer que tout le monde est en santé, pour qu'on est capable de porter secours à tout le monde. Parce que si on court tout ça dans le bois, c'est qu'il y a des secteurs qui sont moins accessibles. Là, fait qu'on a vraiment une belle équipe de sécurité.
Raphaël Marchand, ce matin à Montréal, c'était le déluge. Là, je veux pas être négatif, mais il y a beaucoup de pluie qui s'en vient ici dans la région. Avez-vous un plan B s'il mouille sans arrêt?
Bien, c'est ça. Dans le fond, nous autres, on parlait avec toutes les autorités. On est justement en train de regarder ça là, avec tout le monde. Là. Puis, on a quand même des secteurs qui sont beaucoup plus reculés du côté du Parc national du Fjord du Saguenay. Fait que là, on attend les dernières nouvelles qui devraient être aux alentours de 5 heures là, pour la météo. Mais si jamais il y a de quoi, on est prêt. On a des options pour modifier les parcours, là, pour s'assurer que tout le monde est en sécurité pour le long de l'épreuve. Mais il n'y aura pas de cancellation. Ça, c'est sûr qu'on va de l'avant avec l'épreuve de toute façon.
Raphaël Marchand, merci beaucoup. Bonne chance aux participants. Puis j'espère que la météo sera de votre côté.
Il va faire beau dimanche, on va être correct. On va passer au travers de la pluie demain matin, puis après ça, on va être correct pour la fin de semaine.
Merci, Raphaël. C'est le fun d'être positif. Au revoir.
Excellent, merci.
Et bonne chance. Les Canadiens, pas les Canadiens de Montréal, on ne gagne pas de Coupe Stanley, mais les Canadiens aux Jeux olympiques, médaille d'or aux 4x100 mètres. Et ça a été le 100 mètres puis 200 mètres, les courses à pied, là. Pas pour rien que le 100 mètres, ils appellent ça l'épreuve reine des Jeux. C'est tellement spectaculaire. Puis cet après-midi, c'était 4x100 mètres. Et pour la première fois depuis les Jeux olympiques d'Atlanta, on se retrouve avec l'or. Je vous raconte un peu comment ça s'est passé. La course commence avec Aaron Brown, suivi de Jérôme Blake. Et là, ça mène le troisième coureur, Brendan Rodney. Et là, lui, il a fait un sprint incroyable. Et là, le Canada s'est retrouvé en tête. Et on a complété la course, l'épreuve, avec une poussée puissante d'André Degrasse, parce que lui, il n'a pas gagné de médaille, ni au 100 mètres, ni au 200 mètres, mais au moins, il aura sa médaille d'or aux 4x100 mètres. On a couru, nos quatre Canadiens ont couru la distance en 37 secondes, 50 centièmes. Et la médaille de bronze a été remportée par l'Afrique du Sud, et la médaille d'argent Afrique du Sud et médaille de bronze de la Grande-Bretagne. Chez les filles, on s'est classé en sixième position. Boxe, notre ami Alex Gagnon en a parlé tantôt. Je lui demandais s'il suivait la boxe aux Jeux olympiques. Puis il dit, je me suis levé de bonne heure pour suivre Wayne Sanford qui a gagné une médaille. Il a atteint la demi-finale puis a remporté une médaille de bronze. Médaille de bronze également en canoë pour filles, le duo canadien de Cathy Vincent et de Sloane McKenzie. Ce soir, bien, on a du hockey ce soir. C'est pas la Ligue nationale, c'est pas le junior majeur, mais c'est les moins de 18 ans. La Coupe Linka-Gretzky, le Canada, va jouer ce soir à 21h30 contre les États-Unis, les Américains. Au baseball, les Jays qui ont surpris les Orioles de Baltimore, ils en ont gagné 2-3. Puis hier, je regardais ça, Guerrero, là, il frappe, ça n'a pas de bon sens. Depuis deux, trois semaines, là, c'est le meilleur frappeur du baseball. Hier, un circuit, un trip, un double. Il manquait un coup sûr, le carrousel. Il est rendu à 23 circuits. C'est l'attraction. Il y avait 35 000 personnes encore hier au stade des Blue Jays. C'est l'attraction à Toronto. Il reste lui, là, les autres, bien, on est en reconstruction, comme ils disent dans le sport. Les Jays qui commencent une nouvelle série ce soir contre les Aces d'Oakland. C'est une équipe à la portée. C'est pas une grosse formation, Oakland, mais il frappe beaucoup, beaucoup de circuits. Au soccer, ben, il y a un nouveau joueur avec le CF de Montréal. Il y a eu une transaction. En fait, on a acheté un joueur du Toronto FC. Il s'appelle Jackie Lee Marshall Routy. Alors, il devrait jouer demain, parce que demain, le CF de Montréal va jouer contre l'Union de Philadelphie. Ce n'est pas un match de la Ligue de la MLS, là. C'est un 16e de finale dans la Ligue COPS, ce que nous expliquait hier Benoît Lavoie. Les Alouettes. Eh bien, les Alouettes vont bien, même si les deux quarts arrière sont blessés. On a connu un début de saison incroyable. On est 7 victoires, 1 défaite. On a gagné la semaine dernière à Hamilton. Et là, demain, c'est à Montréal contre, justement, les mêmes Tiger Cats. Il y a beaucoup de football en fin de semaine. D'abord, le camp d'entraînement des Gaillards et Cougars, ça commence aujourd'hui dans le football collégial. Et au niveau du football de la NFL, ben, il y a 3 matchs en concours aujourd'hui et il y en a 9 demain. En athlétisme, j'y reviens, mais cette fois au niveau canadien, parce qu'à Calgary, il y a 3 athlètes du Saguenay qui participent à ce championnat canadien. Les voyageurs, ça commence là. Il y avait 1500 personnes hier au stade Richard Desmeules. On finissait un match qu'on a gagné 12-0, puis on a perdu la deuxième partie. Et là, on va jouer, parce que Jacob Lorrain a un match 100 points de coup sûr hier pour les voyageurs, qui vont jouer à Charlebourg en éliminatoire. Pour ce qui est du M18 de midget là, dans le baseball, c'est 4 matchs en 2 jours pour les pionniers du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2 tournois de baseball ici en fin de semaine. J'espère que la pluie ne sera pas trop dérangeante, mais il y a un tournoi du côté de La Terrière pour le calibre Atome et un tournoi midget du côté de Kenogami. À Jean Béliveau en fin de semaine, c'est le soccer qui se poursuit avec 13 pays, entre autres des pays africains. Et puis, Dominique sera de retour lundi dans le vestiaire pour nous jaser de plein de sports. J'ai hâte d'entendre qu'est-ce qu'il y aura à nous mentionner qu'est-ce qu'il a fait aussi dans ses vacances. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Reposez-vous bien pour les gens qui sont en vacances. Bien, profitez-en, sauf que la température ne sera pas de notre bord en fin de semaine. On se retrouve lundi. Dans quelques instants, c'est le retour au 92.5.
On ferme le vestiaire. De retour lundi, 15h30.